Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Belgique, bienvenue en Wallonie, bienvenue à Mons. Mons, capitale européenne de la culture tout au long de cette année 2015. Mons, plus ou moins 100 000 habitants, un passé industriel et minier, une économie en déshérence, une image peu flatteuse, mais la volonté de changer tout cela, notamment à travers Mons 2015. Carrefour de l'Europe a posé ses micros dans une brasserie sise sur la grande place de la ville. Des Montois nous ont rejoints, à commencer par le premier d'entre eux. Bonjour, Élodie Roupaud.
Bonjour.
Vous êtes le bourgmestre. En France, on dirait, je devrais dire bonjour monsieur le maire, et en Belgique, je dis bonjour monsieur le bourgmestre.
En effet, mais vous pouvez dire les deux, nous comprenons la traduction entre bourgmestre et maire.
Donc... Mais on ne dit jamais maire en...
On dit mailleur.
On dit mailleur.
Ce qui est formidable.
Voilà. Élodie Roupaud, vous étiez il y a quelques mois encore le Premier ministre de la Belgique. C'est frustrant ou non de revenir aux affaires locales quand on a...
C'est un grand honneur que de revenir aux affaires locales, car il n'y a rien de plus important que d'être un citoyen parmi les citoyens, et en particulier dans sa propre ville.
Et vous êtes un Montois de cœur ?
Je ne suis pas né à Mons, je suis né à Morlan, oui, mais je suis Montois depuis l'âge d'une vingtaine d'années. Et mon cœur est en effet à Mons. Mons, qui pour nos auditeurs du bout du monde, est situé entre Bruxelles et Paris, entre Amsterdam et Paris. C'est la première ville de Belgique quand on vient de Paris par l'autoroute pour aller vers Bruxelles.
Et c'est rapide, on est à 3 heures d'autoroute de Paris à peu près.
Non, on est à 2h20 d'autoroute de Paris. Et
quand on respecte
est...
les 130 km à l'heure ?
Oui, oui, quand on respecte les 130 en France et les 120 en Belgique et qu'il n'y a pas d'encombrement sur la route. Et c'est aussi très facile d'accès par le train, TGV jusque Lille ou TGV jusque Bruxelles, et puis nous rejoindre par exemple par le train ou par la voiture.
Donc on a compris, Mons au cœur de l'Europe.
Oui, Mons est au cœur de l'Europe et très facile d'accès.
Je vous présente nos autres invités. Yves Vasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire général de Mons 2015. Joël Vattier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Madame Doudou. Alors, qu'est-ce que le doudou ? C'est assez mystérieux, mais je pense qu'on en saura un peu plus tout à l'heure. Delphine Génard, bonjour. Vous êtes responsable du Mundaneum. Là encore, qu'est-ce que c'est que le Mundaneum ? Décidément, Mons, une ville pleine de mystères. Gaëtan Santarelli, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 20 ans et en 2015. Ouais. Avoir 20 ans en 2015 à Mons, bah vous nous direz un peu comment on se sent à Mons quand on a 20 ans en 2015. Et puis Gérard Bavet, qui est historien, enseignant, citoyen, j'ai tout dit ?
Oh oui, on peut commencer comme ça. Oui.
Bonjour en tout cas.
Bonjour.
Et puis Antoine Hénault, qui est un jeune chanteur montois, déjà connu en Belgique et qui, j'en suis sûr, sera tôt ou tard connu en France. On l'entendra à la fin de l'émission. Alors, Élodie Roupaud, cette émission s'appelle Carrefour de l'Europe. Et ce qui frappe lorsqu'on arrive à Mons, c'est que l'on est ici à un carrefour de l'histoire de l'Europe. Dans les années 50, autour de Mons, il y avait... partout des mines de charbon, et il a fallu des mineurs pour extraire ce charbon. Et votre histoire personnelle s'inscrit tout à fait dans l'histoire de Mons, de la Belgique et donc de l'Europe, en quelques mots.
Oui, c'est parce que vous voulez dire que je suis fils d'ouvrier mineur, ce qui est vrai. Donc j'ai bien connu l'activité des charbonnages, mais Mons aujourd'hui a un visage totalement différent. Nous avons subi un reflux économique drastique avec une disparition de petites et moyennes entreprises, d'indépendants qui étaient des sous-traitants des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, une ville comme Mons est une ville métamorphosée parce que nous avons travaillé pour le futur en nous basant notamment sur une restauration du patrimoine de la ville. Nous avons aussi construit de nouvelles infrastructures structurantes pour qu'il y ait de l'activité. Et c'est vrai que Mons est une ville touristique par excellence, une ville qui veut s'en sortir par rapport aux difficultés du passé et qui veut entraîner toute la région voisine, qui est la région du Borinage, qui en effet a subi, comme Mons, les affres des fermetures, notamment des charbonnages.
Alors Yves Vasseur, au cours évidemment de Mons 2015, il y aura une évocation de ce passé minier à travers un musée.
Le musée de Spilt Mine.
Mais c'est un autre type de minière.
Oui, certes.
C'est vrai que les Montois, effectivement, étaient destinés à creuser le sol. Et il y a effectivement un endroit extraordinaire qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, qui sont les minières néolithiques de Silex, de Spienne, effectivement. C'est la première trace au monde d'une exploitation quasi industrielle du silex et de sa transformation en armes, en outils, etc.
Donc historiquement à Mons, depuis des générations, des siècles et des siècles, on a creusé la terre.
Voilà, on peut le dire, je suis pas le spécialiste du silex, mais c'est vraiment un lieu étonnant et la ville de Mons a construit maintenant un musée qui va permettre de montrer les pièces les plus intéressantes qu'on a découvertes dans le sous-sol, mais qui va permettre aussi, et pour la première fois depuis très longtemps, de descendre en toute sécurité dans ces mines qui sont assez exceptionnelles.
Alors Gérard Bavet, pour qui n'a jamais mis les pieds à Mons, et parmi nos auditeurs ils sont nombreux, Mons en quelques mots.
Ah, Mons, c'est un mont, donc c'est une colline. Et c'est ça qui est le charme de la ville, c'est que elle est tout en fait entourée d'un boulevard qui permet d'y accéder évidemment facilement. Et toutes les rues montent vers la Grand Place d'un côté, et puis montent vers l'ancien château, et montent vers une ancienne collégiale qui s'appelle Sainte-Vaudru. Donc ça, c'est grâce à cette colline, se trouve alors près d'autres collines, mais c'est tout aussi proche également du bassin de la Inde. Et la Inde, cette rivière qui passe par Mons, est celle qui a donné son nom au Hainaut. Donc le Mons a été chef-lieu de la région de la Inde et donc chef-lieu du Hainaut de cette manière-là. Alors c'est une ville qui a des origines extrêmement lointaines. Certains archéologues y ont trouvé des traces de la période romaine. Elles ne sont pas très très importantes. Il y a des lieux romains plus importants dans les environs. Il y a une chaussée romaine toute proche. Mais la naissance de la ville remonte grosso modo au 7e siècle, comme beaucoup de villes en Occident. Donc il y a une sainte qui s'appelle Sainte-Vaudru, qui vient installer son oratoire sur la colline, qui d'abord l'installe au-dessus d'ailleurs, et puis Dieu vient ravager tout ça et dit non, tu dois être plus modeste que ça, mets-toi sur le côté. Et puis donc les filles de Vaudru vont créer cette communauté qui va rester jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc jusqu'à la Révolution française. À partir du 10e, 11e siècle, il y a des principautés territoriales qui se créent. Évidemment, les seigneurs du temps vont regarder vers cette colline, vont regarder vers le sommet de la colline en se disant c'est là qu'il faut installer notre château. Il y aura le château des comtes de Mons et puis des comtes de Hainaut. Et puis comme il y a un chapitre chanoinesse, comme il y a un comte de Hainaut, ben il va y avoir des commerçants, il va y avoir des bourgeois, il va y avoir une première enceinte, il va y avoir une grande place avec des bourgeois installés tout autour de la grande place. Et les boulevards actuels dont je parlais tantôt, eh bien c'est simplement la trace d'une immense, enfin, très grande enceinte qui est créée à la fin du XIIIe siècle, donc qui fait 4 km de long et que l'on parcourt encore aujourd'hui. C'est devenu les boulevards, donc à l'endroit des anciens fossés de la ville. À Mons, c'est toujours un peu comme ça, donc on se sert des traces du passé pour construire l'avenir. Et donc on a trouvé là, au XIXe siècle, qu'il y avait un bel espace, et donc on a tout aménagé, on a créé des écoles, des équipements collectifs, etc., sur toute cette couronne qui vaut aussi la peine, et les boulevards qui sont autour de la ville.
Et à l'intérieur de cette colonne, la ville historique, pleine de petites ruelles, de jolies maisons.
Ah, la ville historique, c'est un trésor, effectivement, d'autant qu'elle a été particulièrement bien surveillée, sauvegardée dans les 50 dernières années, là où elle risquait éventuellement d'être défigurée par une autoroute, par des grandes constructions qui seraient venues créer le désordre au milieu de la ville. C'est vraiment une ville qui a son charme du Moyen-Âge. Hein. Le réseau des rues, c'est exactement le réseau du Moyen-Âge. Donc on prend une carte du XVIe siècle, on peut se balader avec la carte du XVIe siècle dans la ville d'aujourd'hui.
Alors si vous avez envie de découvrir la ville comme je l'ai fait, ben, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire de passer par l'association des Gritteurs, une association de citoyens qui vous emmène dans les recoins de la ville. Et c'est Mirella Di Renzo qui m'a guidé. Et bien sûr, nous nous sommes arrêtés au pied du beffroi qui domine la ville.
Donc c'est un beffroi baroque qui reprend 3 styles différents, dorique, ionique et corinthien. Donc c'est l'unique en son genre en Belgique et dans le nord de la France également. Il est construit sur ce qui étaient les anciennes terres comtales, donc le comte de Hainaut, à l'époque. Ça servait bien évidemment comme tous les beffrois pour indiquer l'heure, pour avertir la population s'il y avait un danger. Et c'était juste sur le bord de l'enceinte du château comtal.
Alors, il est particulièrement important dans le cœur des Montois.
Il est important dans le cœur des Montois, ben parce qu'il se voit de loin. Quand on part à l'étranger et qu'on revient par l'autoroute et qu'on voit le beffroi, on est tout content de rentrer à Mons. On se dit, ça y est, on est à la maison, on va retrouver notre chez nous. Et pour Mons 2015, il va être illuminé d'une façon extraordinaire. Et donc, il aura encore plus d'importance et plus d'impact. On le verra d'encore plus loin.
Beffroi de Mons, 83 mètres, hein, je crois, et tout en haut, le carillon, 49 cloches, et bien sûr un carillonneur qui vient de temps en temps animer ces cloches. Joël Vattier, cette ritournelle que l'on vient d'entendre, ça doit vous dire quelque chose.
Oui, bien entendu, c'est l'air du doudou, en fait.
Alors, voilà, c'est l'air du doudou. On avance un petit peu sur cette connaissance du doudou. Donc, le doudou a un air, mais qu'est-ce que c'est que le doudou? Le doudou, en France, hein, c'est pour tous les enfants, une petite peluche qu'on traîne, qui est sale, parfois un torchon. Bon, et c'est un truc que les enfants traînent partout. Quand ils l'ont perdu, ils pleurent systématiquement. Le doudou de Mons, c'est pas ce doudou-là.
Ah non, pas du tout. Donc, chez nous, à Mons, donc, le doudou, c'est vraiment une fête de grande liesse collective, extrêmement populaire. On dit même d'ailleurs que le public est le premier acteur de la Ducasse, de sa Ducasse. Le doudou, donc en fait c'est une fête de dédicace à la patronne de Mons qui est Sainte Vautru, qui a été évoquée par Monsieur Bavet. Ses origines remontent au XIVe siècle et on peut dire que le noyau central, ce qui en constitue l'apogée, c'est ce que nous appelons la Ducasse rituelle de Mons. Alors, c'est quoi cette Ducasse rituelle de Mons? On peut la définir autour de quatre moments forts qui sont vraiment attendus avec impatience chaque année par les Montois, mais également au-delà des frontières, donc pour la population au-delà des frontières de Mons. Alors, les festivités débutent avec une cérémonie qui a lieu le samedi de la Trinité dans la collégiale Sainte-Vaudru. Donc, c'est une fête mobile qui a lieu à la Trinité 40 jours après Pâques. Voilà.
Alors,
donc,
cette année,
ça tombera les 30 et 31 mai 2015, en fait. Et donc, les festivités débutent dans la collégiale Sainte-Vaudru, avec une cérémonie qui est très solennelle et très importante, et qui représente, en fait, la refondation de la cité, parce que les reliques de la Sainte Patronne de Mons, Sainte-Vaudru, qui sont habituellement suspendues au-dessus du chœur de la collégiale, sont descendues, processionnées à l'intérieur de la collégiale et elles sont confiées par le doyen qui représente le pouvoir spirituel au bourgmestre qui lui représente le pouvoir temporel qui lui s'engage en fait à faire en sorte donc que les reliques soient bien processionnées le lendemain dans les rues de la cité et à les restituer en bon état au terme de son périple au sein de la ville. Donc, cette cérémonie dure une heure dans la collégiale Sainte-Vaudru. Les festivités se poursuivent le lendemain matin, donc au niveau du rituel, avec donc la procession qu'on appelle la procession du quart d'or. Donc, dans cette procession, donc qui est constituée de 1700 participants, donc qui représentent les confréries qui ont fait la richesse de la région à partir du Moyen Âge. Donc, les reliques de la Sainte Patronne sont processionnées sur le quart d'or. Dans cette procession et le parcours qui est parcouru par la procession, si vous voulez, retrace en fait le trajet, enfin la ville en elle-même en fait. Donc on retrace vraiment l'espace de la cité. Et cette procession se termine vraiment par un moment qui est extrêmement attendu par tous les participants à la Ducasse, par les Montois, c'est la fameuse montée du quart d'or. Et là, il y a énormément de monde, donc vraiment toute la population, toutes les participants, la population avec ses chambourlettes. Donc les chambourlettes, c'est le nom qu'on donne, enfin que les Montois donnent à leurs invités. Donc là, tout le monde, vraiment toute la population, se positionne derrière le quart d'or et symboliquement pousse ce quart d'or qui est tiré en fait par des chevaux de trait. Et la légende dit que si le quart d'heure ne monte pas la rampe Sainte-Vaudru d'une seule traite, c'est le malheur qui s'abattra sur la ville.
C'est déjà arrivé ?
Non, ce n'est jamais le cas. Voilà.
À un moment, on s'arrache. Alors, je ne sais pas si je dis les poils du doudou, est-ce que je peux dire
alors,
ça ?
Donc ça, c'est juste immédiatement après la montée du quart d'heure. Une fois le quart d'heure monté, ben là, vraiment, donc il y a le combat d'Illumson, donc le fameux combat de Saint-Georges et du Dragon qui démarre avec cette fameuse descente de la rue des Clercs. Donc c'est une rue qui joint la collégiale Sainte-Vaudru à la Grand Place. Et là donc tous les personnages d'Illumson, dont Saint-Georges et le Dragon, rejoignent la Grand Place pour le combat qui a lieu donc chaque année à la Trinité en face de l'hôtel de ville.
C'est évidemment comment ça se termine. Saint-Georges finit toujours par terrasser le dragon. Hein.
Effectivement, mais il y a toujours quand même une part de suspense.
Alors tout autour de cette table, à l'évocation du doudou et du carillon, de l'air du doudou, tout le monde a eu un petit sourire, tout le monde a forcément un souvenir avec son doudou. Et alors, Elio de Rupouvre, en tant que bourgmestre, vous n'avez pas toujours été bourgmestre, à un moment vous avez été un gamin dans les rues de Mons.
J'étais un peu plus que gamin, mais j'étais un post-adolescent, donc un jeune, et c'est vrai qu'avant de devenir bourgmestre, je fêtais le doudou jusqu'à 7h du matin, le samedi et le dimanche. Tandis que maintenant, je suis obligé d'aller dormir tôt pour me lever très tôt et être parmi les premiers. Le point d'orgue, c'est vraiment le combat de Saint-Georges contre le dragon. Et c'est vrai, la population s'arrache les poils de la queue du dragon. Et on dit que si on réussit à arracher les poils de la queue du dragon, on a du bonheur. Alors, certains disent que c'est du bonheur pour un an. On a demandé aux principales universités, scientifiquement, c'est attesté. Donc, vous pouvez venir, vous qui êtes au bout du monde, venir à Mons pour tirer la queue du dragon, et surtout les poils de la queue, vous aurez du bonheur. Donc, voilà, ça c'est bien entendu pour la tradition, mais ça donne un spectacle magnifique, parce qu'il y a des milliers de personnes, en tout il y a une centaine de milliers de personnes, et ça, chaque personne qui vient là du casque, qui vient en ce doudou, est acteur du doudou, et ça donne un moment de convivialité exceptionnel.
Alors ça fait évidemment un peu penser, je m'adresse à vous parce que vous êtes italien aussi, au palio de Sienne.
Oui, hein, il y a de cela, mais les chevaux en moins, et personne ne tombe ni ne se blesse, ou en tout cas jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas dramatiques comme il peut y avoir au palio.
Alors, Gaëtan, ça donne une idée du côté festif de Mons.
C'est sûr que le doudou, c'est aussi une grosse semaine de fête pour les étudiants, même si souvent c'est en période d'examen, mais voilà, on fait une petite pause pour aller chercher son porte-bonheur. Et voilà, oui, c'est une période de fête où on retrouve des gens qu'on voit chaque année, et ça permet de boire un coup, de s'amuser, de parler.
Je me suis décidé dire parfois plusieurs.
Oui, c'est vrai qu'on a cette petite réputation, mais voilà, c'est normal de boire un coup. Maintenant, ouais, c'est juste pour partager des bons moments et de se retrouver. C'est super important, je pense.
C'est vrai que tout le monde m'a dit, à Mons, on sait faire la fête.
Oui, je pense que les Montois ont une réputation généreuse, conviviale, de partage et d'accueil de l'autre. Et donc, c'est ça aussi qu'on met en évidence dans cette année Mons 2015. Mons accueille l'Europe et s'offre à l'Europe en même temps. C'est vraiment une belle métaphore et le doudou est effectivement un point d'orgue en la matière.
Et le doudou est intégré dans les festivités de Mons 2015 ou c'est encore à part?
C'est-à-dire qu'évidemment, on met les fêtes du doudou en évidence dans nos programmes, etc. Mais d'un autre côté, on n'a pas revendiqué une tradition séculaire et c'est pas nous qui avons inventé le doudou et c'est pas Mons 2015 qui fait le succès du doudou. Mais évidemment, c'est une semaine où on va mettre en évidence aussi, par exemple, un des nouveaux musées qui va s'ouvrir en début avril, un musée consacré effectivement à la tradition européenne de Saint-Georges et du dragon, parce que on n'a pas dit, mais c'est dans ce sens que peut-être Mons 2015 pourrait revendiquer une filiation, c'est que c'est un mythe européen qu'on retrouve à peu près dans tous les pays d'Europe, du sud au nord et même dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, et ce musée va bien sûr expliquer tout au long de l'année, en dehors et pendant ce week-end, ce que c'est que le doudou à Mons, mais Joël va sans doute me compléter, va montrer aussi les filiations de cette fête à travers l'Europe.
On va laisser le doudou quelques instants et on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Et on va se retrouver très exactement dans 3 minutes, juste après les infos. On va se retrouver évidemment à Mons, Mons capitale européenne de la culture, tout au long de cette année 2015. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Kruzymion tutaj Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel,
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Toujours à Mons, en Belgique, à l'occasion de Mons 2015. Mons, capitale européenne de la culture. Je vous représente rapidement nos invités qui ont pris place à la brasserie Nos Maisons, assise sur la grande place de Mons. Élodie Roupeau, bourgmestre de Mons et ancien premier ministre belge. Yves Asseur, commissaire général de Mons 2015. Joël Vattier, madame Doudou, c'est plus simple de vous présenter comme ça. Delphine Genard, qu'on n'a pas encore entendu et qui est la responsable du Mundaneum. Gaëtan Santarelli, 20 ans, à Mons en 2015. Et puis, on entendra Antoine Hainaut, qui nous chantera une chanson tout à l'heure. Et on entendra, bien évidemment, encore Gérard Bavet, historien et enseignant. Alors, Élodie Roupeau, quand on prend la tête d'une ville et d'une région au riche passé industriel, mais en grande difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la marche? On mise sur quoi?
Eh bien, il faut avoir de l'audace, il faut changer de paradigme. Et se dire que le passé, c'est le passé, qu'il faut écrire une nouvelle page, et nous sommes en train d'écrire une nouvelle page, à la fois avec une dimension culturelle, parce que la culture non seulement élève les citoyens, mais a une incidence économique importante, mais nous avons aussi, grâce à l'arrivée de Google dans notre région, mis en place et favorisé l'installation d'une quarantaine d'entreprises de très haute technologie, et nous avons créé ce qu'on appelle la Digital Innovation Valley, on mise sur les technologies nouvelles. Mais d'une manière générale, que cherche-t-on à faire? C'est ce que nous faisons avec vous aujourd'hui. Nous voulons que les investisseurs, les créateurs, les artistes, les entrepreneurs soient conscients que Mons existe sur la carte du monde, qu'ils peuvent venir, ils vont y trouver des conditions de vie exceptionnelles et en même temps peuvent faire leurs affaires. Et nous voulons qu'un maximum de gens viennent, créent de l'activité, créent de l'emploi, car nous avons besoin de ces emplois, notamment pour nos citoyens. Et donc, une opération comme l'opération Capitale Européenne de la Culture a une dimension culturelle, mais aussi une dimension économique et sociale.
Alors, évidemment, vous avez évoqué, Élodie Roupeau, cette fameuse Digital Innovation Valley. En français, on dirait vallée de l'innovation numérique, on dirait ça. Il y a une centaine d'entreprises. Vous avez cité Google, on aurait pu citer Microsoft, et puis une multitude de petites entreprises avec parfois 2-3 salariés, parfois un peu plus.
Les start-up. Qui sortent de nos universités. Nous avons 2 universités et des hautes écoles à Mons, et il y a pas mal de très petites entreprises qui sont le résultat des travaux de recherche dans les universités, et notamment la faculté polytechnique.
Alors tout ça, ça fait un peu penser à la Californie sur Hainaut, je suis sûr que c'est une image qui vous plairait. En Californie, il y a bien sûr la mythologie des copains qui fondent Apple dans un garage. Eh bien, à Mons aussi.
C'est vrai qu'on fait souvent référence à, on a commencé dans un garage, bon, nous c'était dans une cave, mais effectivement on a une histoire avec une certaine croissance et on a été chercher des projets là où on pensait qu'il n'y en avait pas, et on a un petit peu gratté tout le business model du jeu vidéo, et on a été dans des retranchements où on pense qu'on peut pas faire de jeu, mais on l'a fait.
Les jeux vidéo, c'est un truc d'adolescent qui s'éternise?
Les adolescents des années 80 sont les adultes d'aujourd'hui, donc forcément le public il a évolué avec ça, mais il y a plus de 60% de la population active qui joue, donc le jeu vidéo c'est pas juste pour les ados boutonneux en tout cas.
Concrètement, Fishing Cactus, ça marche comment? C'est encore une bande de copains ou c'est maintenant une société en vue d'être bientôt cotée en France, on dirait le 440?
Oui, en Belgique, c'est le bel vin. Pourquoi pas? En fait, la bande de copains, c'est obligatoire. C'est-à-dire, quand on fait du jeu, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, il faut qu'il y ait de la cohésion. Malgré le fait qu'on soit 30, les équipes qui travaillent sur les projets sont généralement assez petites, c'est 4 ou 5 personnes maximum. Mais forcément, par rapport à nos débuts où on était 4 ou 5, il y a des processus qui se mettent en place pour essayer de se professionnaliser. On doit payer des factures, comme tout le monde, donc il faut pas non plus se la jouer au petit bonheur la semaine. Il y a des plans à faire sur le long terme. Mais effectivement, ça reste quand même sur une ambiance très sympa. On a des kickers, on a des flippers, on essaye de jouer, entre guillemets, mais ça bosse quand même très dur. Le jeu, c'est pas un métier facile du tout à faire et il faut prester pas mal d'heures.
On vient d'entendre Laurent Grumieux. Il est le tout jeune directeur commercial d'une petite entreprise, d'une start-up qui s'appelle Fishing Cactus, qui fabrique et qui innove et qui invente des jeunes vidéos. Alors, Elio Di Rupo, vous avez évoqué Google. Évidemment, ça change l'image, Google.
Google a changé l'image parce que Google nous met sur la carte du monde et être capitale européenne de la culture métamorphose la ville et nous met également sur la carte du monde. Et donc, on profite de ces deux éléments phares pour attirer l'attention, pour dire à tous celles et ceux qui créent, toutes celles et ceux qui innovent, toutes celles et ceux qui veulent entreprendre, venez, nous vous accueillons, on a besoin d'activités, on a besoin d'emplois, et venez tester cette région, cette ville, par rapport à d'autres régions ou d'autres villes en Europe.
Alors Google, ça change l'image, Elio Di Rupo, est-ce que Google paye ses impôts?
Oui, Google
n'a pas... Parce que c'est comme une entreprise qui a la réputation de ne pas payer ses impôts, ce serait
oui,
peu, très mal.
Oui, mais ils n'ont pas reçu d'aide, contrairement à d'autres, et indépendamment de cet aspect fiscal, il y a énormément de gens qui travaillent, directement ou indirectement pour Google, et en termes d'image, en termes de positionnement géostratégique, c'est d'une extrême importance.
Est-ce que vous direz que l'image de Mons est en train de changer? Elle a changé pour les Montois. Est-ce que le reste de la Belgique, le reste de l'Europe a aperçu ce changement d'image?
Nous, donc, la ville se métamorphose et nous avons le retour de celles et ceux qui visitent Mons. Il y a énormément d'étrangers hors Belge. En Belgique, il y a énormément de néerlandophones. Vous savez que nous avons trois communautés en Belgique. La communauté francophone, qui est de 4,5 millions d'habitants. La communauté néerlandophone, qui est de 6,1 millions d'habitants. Et la communauté germanophone, qui est de 75 000 habitants. Eh bien, quand les autres Belges que les francophones, ce sont essentiellement des néerlandophones, et toutes ces personnes étrangères ou belges non francophones, une fois venus à Mons, reviennent et font la publicité de Mons parce qu'ils sont sous le charme de la ville.
Alors justement, Mons 2015, est-ce que ça s'adresse évidemment, bien sûr, aux Montois? C'est un événement majeur dans l'histoire de la ville. Mais est-ce que c'est aussi le deuxième public, c'est justement les Flamands? Alors on a toujours tendance à dire que la Flandre va mieux économiquement que la Wallonie. Est-ce que c'est l'occasion pour vous, bourgmestre de Mons, de dire, venez voir un peu les Flamands, ça se passe pas si mal que ça en Wallonie?
De toute évidence, et nous avons des exemples d'entreprises qui ont entrepris des activités qui aujourd'hui sont des leaders mondiaux. Donc, nous n'avons...
Est-ce qu'il y a des entreprises flamandes qui investissent en Wallonie?
Oui, bien sûr, beaucoup. Beaucoup d'entreprises néerlandophones investissent en Wallonie et nous ne demandons qu'une seule chose, c'est qu'il y en ait davantage.
Et est-ce que Mons 2015, Yves Vasseur, vous avez dit... quelques manifestations un peu particulières pour justement tous ces autres Belges qui parlent d'abord le néerlandais et ensuite le français éventuellement.
Ah, d'une part, on a lié des partenariats avec toute une série de villes flamandes justement pour créer avec elles des flux de tourisme culturel. Je pense que c'est une opération qui fonctionne bien. Et puis, il faut savoir que le public néerlandophone est un grand amateur d'art contemporain. Et donc, c'est effectivement en pensant à eux que on organisera notamment au cœur de l'été deux grandes expositions d'art contemporain à Mons, une exposition tout à fait inédite d'œuvres monumentales de sculptures chinoises, des œuvres qui ne sont jamais venues en Europe et qui seront réunies pour la première fois ici à Mons dans un lieu qu'on appelle les anciens abattoirs et qui dispose d'un parc où certaines œuvres seront implantées, ce qui permet une visite estivale agréable. Et puis une autre grande exposition d'art contemporain qui va s'appeler Atopolis et qui, elle, va réunir là aussi dans un endroit que beaucoup de Montois vont découvrir, le manège de Sury, avec là aussi un grand parc, qui vont découvrir une vingtaine d'artistes des quatre coins du monde qui vont chacun décliner une œuvre sur le thème de la ville. La ville rêvée, la ville à créer, la ville haïe, la ville aimée. Et donc il y aura là toute une déclinaison sur la ville, au cœur de la ville. Alors, donc voilà, et je pense qu'effectivement ce sont des accroches potentielles pour le public néerlandophone. Mais à côté de ça, on a commencé l'année avec l'exposition Van Gogh, et je pense que beaucoup de touristes du nord du pays vont revenir découvrir cet artiste qu'ils adorent.
Et qui a vécu à un moment à Mons, ou tout près de Mons.
Il a absolument, il a vécu deux années près de chez nous, une année dans le Borinage, donc vraiment dans
Le Borinage, on savait deux, trois fois qu'on oui, emploie le mot, qui n'est pas très connu. Hein. C'est quoi le Borinage?
C'est la région de l'ouest de Mons, où se situent les principales exploitations charbonnières qui avaient un impact sur Mons.
Et d'ailleurs, Van Gogh a dessiné, peint des mineurs.
Absolument, et c'est ce qu'on va notamment montrer dans cette exposition, c'est qu'il s'intéresse dès ce moment-là à la classe ouvrière, ce qu'il va faire tout au long de sa vie, évidemment avec une déclinaison qui va varier des dessins maladroits au crayon ou au fusain qu'il réalise ici, aux œuvres magnifiques à l'huile sur toile qu'il fera plus tard. C'est vraiment une exposition qui va confronter toutes les parties de son œuvre, mais sur des thématiques constantes. Et donc ça, effectivement, une année qu'il passe dans le Borinage, et puis une année qu'il passe à Coëm, qui est un village qui maintenant fait partie intégrale de Mons, et où on peut visiter la maison qu'il a habitée à la fin du 19e siècle.
Tout à l'heure, avec Laurent Gromyot et Elie Duropon, on a évoqué les nouvelles technologies à Mons. Alors, il fut un temps où les nouvelles technologies n'existaient pas encore, on n'avait même pas inventé le mot, mais il existait déjà une idée de globaliser un peu le monde. Et alors, c'est quelque chose dont vous êtes la responsable, Delphine Génard, et ça s'appelle le Mundaneum. Alors, le Mundaneum, c'est comme pour le doudou, c'est quoi?
Exactement, on a parlé de Google à Mons. Je pense que Mons est la seule ville en Europe, même à la limite au monde, qui accueille à la fois Google et l'ancêtre de Google. Donc en fait, quand on pénètre dans le Mundaneum, on a finalement cette opportunité de rentrer dans un moteur de recherche.
On dit que c'est le Google
véritablement,
de papier.
Véritablement. Voilà, c'est vraiment la toute première initiative d'indexer, de répertorier tout le savoir du monde. Donc c'est vraiment deux hommes, deux passionnés de bibliographie qui étaient juristes, Paul Otley et Henri Lafontaine, et ils se rencontrent à Bruxelles autour de cette passion pour le livre.
Et donc, quelle année à peu près?
Et là, on est en début des années 1890, et ils vont tous les deux imaginer un système qui permettra de classer, d'indexer l'ensemble des livres publiés depuis l'apparition de l'imprimerie, et par la suite ils vont se rendre compte que leur méthode, qui s'appelle la classification décimale universelle, permettra de classer beaucoup plus d'autres choses que les livres, et c'est en ça qu'on se dit quelque part ils ont une première vision quelque part de ce mode d'indexation de l'information qui mènera au numérique, qui mènera à la société de l'information qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'état d'esprit de la technologie qu'ils ont déjà en 1895.
Alors le Mundaneum, ce sera un bâtiment, un immeuble, un musée, on peut dire ça ou...
Tout à fait, donc à l'époque au cinquantenaire à Bruxelles, et donc ils vont occuper l'actuel Auto World à Bruxelles, 100 salles qui représenteront vraiment le palais mondial, le palais de la connaissance, Mundaneum.
Alors quand on va pénétrer dans ce Mundaneum, ça va ressembler à quoi?
Alors l'idée c'est vraiment de rentrer dans une sorte de temple de la connaissance dont les murs sont tapissés de meubles fichiers, donc les originaux, les meubles qui ont été créés, construits à l'époque pour le projet et qui sont aujourd'hui reconnus au registre mémoire du monde, de l'UNESCO également, donc un quatrième patrimoine pour la ville de Mons. Et donc vraiment l'idée c'est de rentrer et de se sentir immergé finalement dans cette révolution des données, de révolution de l'information, puisque le programme de réouverture du Mundaneum après quand même deux années de travaux, ce sera une exposition dédiée réellement à la révolution Big Data.
Et évidemment le Mundaneum survivra à Mons 2015.
Tout à fait, donc effectivement, et Mons 2015 c'est un objectif très important en soi, mais c'est aussi une rampe de lancement, c'est aussi la volonté de positionner clairement aussi Mons sur la carte mondiale, j'ai envie de dire, de l'histoire des pionniers des technologies de l'information, de la communication, puisqu'il y a véritablement un patrimoine informatique, une histoire de l'informatique dont Otley et Lafontaine participent.
Il va rester des choses après Mons 2015. Mons ne va pas s'écrouler le 31 décembre 2015. On peut espérer.
Rassure le bourgmestre, on n'a aucunement l'intention de tout démolir, ce qu'on a sciemment construit ces dernières années, et qui est effectivement une métamorphose, Elie Duropon employait le mot tout à l'heure, incroyable. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire des villes européennes, qu'en quelques années, on arrive à ouvrir 5 voire 6 musées, si on compte la réouverture du Mundaneum, un centre pour la musique, un théâtre il y a quelques années, un centre de congrès magnifique signé Daniel Libeskind qui vient d'ouvrir d'ouvrir il y a 15 jours. Une gare en construction qui sera exceptionnelle, signée de Calatrava.
On va dire un mot sur la gare.
Une maison du design, et j'en passe sûrement. Donc là, il y a vraiment une effervescence infrastructurelle et tout ça est assuré de rester et de vivre, surtout après 2015. Les budgets de fonctionnement, les projets, les équipes de tous ces lieux existent aujourd'hui et ont été réfléchis. On n'a pas construit de projet pharaonique. On n'a pas investi, je ne sais pas, dans un opéra de 3000 places qu'on aurait peut-être rempli encore une fois ou deux en 2015 et qui n'aurait pas servi après. Là, ce sont vraiment tous des projets à la taille de la ville, nécessaires à la ville. Ils comblent des vides. Chacun des musées dont on peut parler a un but précis, soit pour augmenter le tourisme mémoriel, soit pour augmenter le tourisme plus patrimonial, soit pour augmenter le tourisme folklorique. Et tout ça a des visées très, très claires. Et je pense que tout ça mis ensemble va contribuer à un renouveau exceptionnel de la ville.
Alors un mot sur la gare. Certains arrivent par la route, d'autres arrivent par la gare. Et quand on arrive par la gare de Mons, aujourd'hui, et lieu du repos, c'est assez surréaliste. Hein, parce qu'elle est entre...
C'est en chantier, mais et vous savez, il y a tellement de procédures administratives, des recours. Il y a eu 8 recours contre. Heureusement, la SNCB, donc la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, a gagné tous les recours, mais ça a pris du temps. Et c'est l'un des grands architectes contemporains, Santiago Calatrava, qui a dessiné cette nouvelle gare, qui sera une gare à la fois de bus, de train. Donc, 3 quais sont dédiés au bus, puis le reste au train. C'est une gare passerelle qui fait la liaison entre la nouvelle ville et l'ancienne ville. C'est une gare qui va être une merveille architecturale, comme l'est d'ailleurs le centre de congrès que nous venons d'inaugurer de Daniel Libeskind. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment aux États-Unis, il faut savoir que Daniel Libeskind a fait le master plan de la reconstruction du Ground Zero, que Santiago Calatrava construit la gare au Ground Zero et que ce sont les deux mêmes architectes que l'on retrouve à Mons, Calatrava pour la gare et Daniel Libeskind pour le centre de congrès. Et comme vient de le dire Yves Vasseur, ce sont des investissements qui vont durer des décennies et peut-être même des siècles.
Et alors, les Montois, vos concitoyens, vos administrés, ils ont compris quand vous avez dit on va se lancer dans Mons 2015, on va faire des travaux, on va s'appuyer sur la culture pour développer la ville.
Partout,
il y a des réticences.
Alors, comme partout, il y a des enthousiastes, il y a des sceptiques, nous ne changeons pas le monde. Il y en a qui ne voient que les dérangements dus aux travaux, d'autres qui se disent, si on fait des travaux, c'est pour vraiment changer le visage de la ville. Mais d'une manière générale, et notamment de chemin faisant dans la capitale européenne de la culture, je suis convaincu que la toute grande majorité, non seulement va adhérer, mais va apprécier ce changement radical de la ville et cette volonté d'aller de l'avant en termes d'activité économique et en termes d'emploi. Mais c'est vrai que la ville de Mons est en chantier ces dernières années. Il y a eu des semaines où toutes les rues étaient quasiment bloquées. Mais voilà, pour nager, il faut être dans l'eau.
Pour avoir construit une piscine.
Une piscine, ou en tout cas la mer, ou un plan d'eau. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des dérangements quand on crée, quand on met en chantier une ville tout entière.
Alors Gaëtan Santarelli, les travaux dans la ville ne vous ont pas trop embêté? Peut-être que vous ne conduisez pas, donc ça ne vous a pas forcément embêté?
À Mons, en fait, on sait facilement se déplacer à pied aussi. C'est une assez petite ville, donc c'est pas dérangeant. Maintenant, c'est vrai que quand on est en voiture, il faut subir les travaux. Mais si c'est un mal pour un mieux, je pense que il faut prendre ça comme ça, il faut positiver.
Alors, avoir 20 ans à Mons aujourd'hui, c'est une chance?
Mais je pense, enfin, c'est surtout beaucoup d'espoir et ça peut être un tremplin pour nous. Enfin, quand on est né à Mons, quand on a fait ses études à Mons, ben on aimerait peut-être travailler à Mons et si ça peut réveiller des entreprises et des investisseurs qui viendraient dans la région, ben ça peut être rassurant pour nous de trouver de l'emploi dans la région et dans la ville qu'on aime finalement.
Parce qu'il faut dire que la situation économique de Mons, elle est quand même aujourd'hui encore très compliquée. Le taux de chômage est important.
Le chômage est important, mais il y a de très nombreuses créations d'emplois. Et puis, c'est une ville qui a plus d'emplois que de personnes qui doivent être employées, mais il y a beaucoup de gens qui habitent en dehors de la ville. Donc, à la fois, il y a un grand volume d'emplois, et à la fois, nous avons aussi un chômage comme toutes les villes. Mais ce qui me paraît important avec la capitale européenne de la culture, c'est aussi de redonner de la fierté, et en particulier aux jeunes. C'est le témoignage que nous sommes capables, dans une région d'ancienne industrie, de faire des choses contemporaines et des réalisations exceptionnelles. Et pour le futur, c'est très significatif. Si on peut le faire, on aura demain du travail, on aura demain de l'emploi, on pourra se bouger. Nous ne sommes pas moins ici dans cette région qu'ailleurs. Et si les jeunes retrouvent un peu de fierté, c'est clair que c'est un capital formidable pour eux pour s'en sortir dans la vie. Et ça, c'est ce que nous recherchons également.
Le mot que vous aimez bien, c'est métamorphose. L'idée d'être le maire, enfin le bourgmestre de la métamorphose, c'est une idée qui vous séduit, qui vous plaît.
Oui, parce que c'était tout ça un objectif et c'est, nous ne sommes pas à la fin de l'objectif, nous sommes au début d'une nouvelle aventure. Maintenant que nous avons créé cette métamorphose, il faut consolider et il faut penser, comme on vient de le dire, il faut penser à nos jeunes, à nos enfants, il faut leur trouver de l'activité, de l'emploi.
On va faire un petit tour de table rapide, on arrive au terme de cette émission. Vous allez tous nous donner une bonne idée de venir à Mons en 2015. Gérard Bavet, une bonne idée.
Oui, une bonne idée, bien, c'est de venir un jour. Je pense qu'il y aura des choses tous les jours. Il y a la ville qui est là, hein, avec ses rues tortueuses, avec ses vieilles maisons, avec des choses à découvrir. Moi-même, comme historien, j'en découvre tous les jours. Chaque fois que je vais explorer un quartier, c'est une ville pleine de secrets, mais qui sont des secrets faciles à découvrir et sur lesquels il y a une tellement belle lumière parce que c'est une ville de pierre bleue et de briques rouges. Et donc, c'est une ville très, très belle.
Joël Battier, Madame Doudou.
Écoutez, je pense que l'année 2015 sera vraiment pleine de surprises, plein d'événements vraiment qui valent la peine et vraiment il faut venir pour ça quoi. C'est quelque chose à côté de quoi on ne peut pas passer.
Delphine Génard, une bonne idée de venir à Mons en dehors du Mundaneum, hein, parce que ce serait trop facile.
Évidemment, je privilégierais peut-être le printemps voire l'été parce que c'est vrai que la ville de Mons à l'heure des beaux jours avec les terrasses et vraiment toute cette ambiance qui se déploie et en plus à partir de l'été il y aura quand même comme on l'a dit, 6 musées ouverts en plus de tout le reste. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un bon timing aussi pour planifier sa visite.
Gaëtan Santerlé, une bonne idée pour inviter tous ceux qui ont 20 ans mais qui ne sont pas montois à venir à Mons.
Je dirais venir à Mons, venir s'asseoir sur la grande place qui est magnifique et rencontrer les montois qui sont des personnes extrêmement sympathiques.
Alors, avant le dernier, Yves Vasseur, le commissaire, le temps fort de Mons, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Évidemment, il faut choisir.
C'est une question exceptionnellement difficile parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait des temps forts tout au long de l'année et que vos auditeurs peuvent venir à n'importe quel moment de l'année, pour un city trip ou pour un week-end, ils auront toujours de quoi se mettre sous la dent, 3 ou 4 grandes expositions, la découverte de la ville, la découverte d'événements ludiques aussi. Je dois insister aussi qu'on a fait un effort pour que tout soit très accessible. 80% des événements sont gratuits. Il y a beaucoup de programmes réservés aux familles, aux enfants. Et si je voulais donner un petit clin d'œil ludique, c'est de venir en juillet se perdre dans le labyrinthe de tournesols. Nous allons planter en hommage à Van Gogh 10 000 tournesols sur la Grand Place avec un circuit labyrinthique qui permettra évidemment de penser à ce grand maître de la peinture que nous allons fêter bientôt et puis simplement prendre du bon temps sur cette grande place.
Alors, il y a plein de choses ont déjà été dites sur les bonnes raisons de venir à Mons. Vous en avez encore une?
C'est une ville créative, c'est une ville conviviale. Et alors, il y a un mélange de toutes les générations, mais c'est une ville extrêmement dynamique et ce dynamisme est dû notamment aux jeunes et aux jeunes étudiants. Donc, voilà, venez à Mons, vous serez reçu véritablement comme un prince ou comme un roi.
Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Merci aux équipes de Mons 2015 et spécialement à toutes les Charlines et les Charlottes de Mons 2015. Il y en a plein. Elles ont toutes été épatantes. Merci à Anna Curciol de nous avoir accueillis chez elle au Nos Maisons. Sur la page de l'émission via rfi.fr, plein de choses vous attendent, sans oublier Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Lescalou, où que vous soyez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, que vous soyez en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde. On va se quitter avec Antoine Hénaud. C'est un jeune chanteur montois. Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous chanter une chanson, quelle est-elle?
Oui, une petite chanson qui s'appelle « J'ai pas la trouille ». C'est une petite chanson d'amour.
On l'écoute.
bien conscient qu'il faille qu'on prenne du recul. Mais après toutes ces années, comment veux-tu que je t'oublie? J'ai mis la belle écharpe que tu m'avais offerte. Quand je sens son parfum, j'ai envie de te prendre en photo. Mais non, j'ai pas la trouille. Je sais bien que tu finiras bien par me reprendre par les cornes. Mais non, j'ai pas trop bu. Je sais bien que je finirai bien par te reprendre le cœur. Chihuahua, 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 chihuahua. C'est vrai que notre appartement était assez restreint. Je m'y revois encore en train d'y caresser les cheveux. Tes parents trouvaient pas que j'avais de bonnes manières. Si seulement ils savaient comment je te prenais par la main. Mais non, j'ai pas la trouille. Je sais bien que tu finiras bien par me reprendre par les cornes. Mais non, parle pas trop vite. Je sais bien qu'elle finira bien par te manquer ma voiture. Chihuahua, 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 chihuahua. Chihuahua, 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 chihuahua. Je me souviens encore de ton grand canapé, de ces soirées superbes où tu aimais bien me parler. Tes copains ne veulent plus que je marche sur tes plates-bandes, mais il n'y a rien à faire. Quand je pense à toi, je suis heureux. Mais non, j'ai pas la trouille. Je sais bien que tu finiras bien par me reprendre par les cornes. Mais non, j'ai pas trop bu. Je sais bien que je finirai bien par te reprendre le cœur. Mais non, j'ai pas la trouille.